À Rencontre spirituelle aujourd'hui, il sera question de Pierre Van der Meer de Valkern. Oh, c'est bien compliqué comme nom, appelons-le Pierre Van der Meer. Peut-être que je l'appellerai Pierre à certains moments, tellement il est merveilleux, il est sympathique et on peut peut-être devenir petit à petit son ami et l'appeler par son prénom. Pierre Van der Meer de Valkern, un Hollandais qui est mort en 1970 et qui était un écrivain, vous allez voir, de très beaux textes, je vous en lirai surtout à la fin, marié, père de deux enfants, et après la mort de sa femme, que je vous ai raconté l'an dernier au temps de Noël, j'ai fait une émission sur sa femme Christine Van der Meer de Valkern. Il est entré chez les bénédictins, la même sorte de bénédictins qu'à Saint-Benoît-du-Lac, mais en Hollande, à Osterhout. Et ce monastère, d'ailleurs, je pense qu'il a été construit par Dom Bello, comme Saint-Benoît-du-Lac. Et c'est un homme extrêmement attachant. Pierre Van der Meer de Valkern, ou Pierre Van der Meer, est né en 1880. À Utrecht, dans les Pays-Bas, comme on dit, en Hollande, et dans un milieu protestant plutôt libéral, une petite secte protestante qu'on appelle les Arminiens. Les Arminiens, c'est une secte qui a été fondée par Jacques Armensen, qui était surnommé Arminius. Probablement, j'imagine, en l'honneur d'Arminius, qui a vécu au moment de la naissance de Jésus, qui était un chef allemand, un chef germain, quoi, et qui a détruit, lui, ce Terminus, les légions romaines dans la forêt de Teutberg en l'an 9, quand Jésus avait à peu près 13 ans, environ 13-14 ans. Et alors, donc, il était arminien, et non pas arménien, là, rien à voir. Son père était un négociant en vin, donc il était d'une famille aisée, puis il est allé à l'université, et il étudie les lettres classiques, hein, la bonne tradition littéraire. Il s'ouvre au socialisme, hein, on est à la fin du 19e siècle. Hein. Parce que le socialisme est alors en vogue, hein, c'est très en vogue le socialisme. Et il est dans un petit cercle d'artistes d'Amsterdam. Nous allons d'ailleurs entendre des chants d'une chorale d'Amsterdam tout à l'heure, qui vont nous chanter du grégorien. Et il suit les cours de Frank van der Goes, intitulés « Les théories les plus arides sur Marx ». Karl Marx, hein, fondateur du marxisme, comme vous savez tous. Et il fonde avec David Winkoop, une association d'étudiants marxistes. Comme vous voyez, il est étrangement enrégimenté, très loin de ce qu'il va devenir, très très loin. Il est aussi végétarien, comme notre Madame Goudreau, le samedi matin. Il est végétarien. Il est contre l'alcool, c'est pas une mauvaise chose. Contre le tabac, très bonne chose. Et dans son perpétuel besoin de militer dans l'avant-garde sociale et culturelle, eh bien, Pierre Van der Meer passe quelques mois au printemps de 1901, donc il a 20 ans, dans un logis, ce qu'on appelle une espèce de logis populaire de Rotterdam, cette autre ville de Hollande, ce port de mer extrêmement important. Il loge parmi les débardeurs et les prostituées. Puis, il va, comme Van Gogh, dans le Borinage. Le Borinage, c'est une section de la Hollande où on trouve des mines de charbon. Hein. Et, entre-temps, bien, il rencontre Christine Verbrugge, une jeune peintre flamande, amie de sa sœur Marie. Et Christine va devenir celle dont je vous ai parlé il y a un an, deux jours après Noël, l'occasion de son décès, dont je vais vous parler tout à l'heure. Van der Meer considère cette rencontre de Christine comme l'événement décisif de sa vie. En février 1901, toujours à 20 ans, ils s'éprenaient donc l'un de l'autre. Et très rapidement, le 18 juin, ils se marient à Bruxelles, en Belgique. Ville en grande partie flamande, où on parle en somme la même langue à peu près qu'en Hollande. Christine, qui est socialiste et féministe avant la lettre, va déclarer plus tard qu'il se marie que pour contenter nos vieux, dit-elle. C'était comme on fait ici au Québec, les gens se marient souvent pour contenter les vieux parents. Mais autrement, ils s'accoteraient, comme on dit vulgairement. Pierre Vardermeer, je vous le rappelle, n'a que 20 ans à ce moment-là, tout ça. Au retour d'un voyage en Italie, Pierre Vardermeer habite près de Bruxelles. Il est profondément atteint par la maladie et la mort de sa mère. Ça le touche beaucoup. Il l'aimait énormément. Et alors, eux, ils reviennent à l'esprit des derniers mots du chant du Dies Irae. Les plus âgés connaissent ça. Hein. Pendant les funérailles, il y avait un chant bouleversant qu'on chantait en latin, mais on en lisait les paroles en français dans nos missels. Puis il était dit dans les dernières paroles, les derniers mots, « Pie Jesu Domine, dona et is requiem. » Oh, pieux Seigneur Jésus, donne-leur le repos. Alors ils se rendent compte que leur prière, et puis lui plus particulièrement que sa prière, c'est pas celle d'un agnostique, non. Il commence tout à coup à sentir qu'il prie pour sa mère et qu'elle s'adresse à quelqu'un, à un Seigneur, Pie Jesu Domine, Domine Seigneur. Et la dernière phrase de son cheminement, la dernière phase de son cheminement vers le catholicisme coïncide avec l'installation de sa famille à Paris en septembre 1909. Qu'est-ce qui va lui arriver? À 29 ans. Ben, Pierre fait la connaissance de Léon Blois, qui va devenir son parrain, Léon Blois, le grand Léon Blois, un homme extraordinaire. Alors là, Pierre Vardermeer prend connaissance du message plutôt apocalyptique auquel se joignent étrangement chez Blois, dans certains passages, une espèce d'antisémitisme virulent, malheureusement, et une aversion violente pour tout ce qui ressemble à la démocratie. Et considérant que le vote de la grande masse des gens, c'est le vote d'ignorants, d'incompétents, et qui ne valent rien. C'est un point de vue plutôt tragique, dramatique, mais compréhensible à l'époque. Pierre, donc, Vardermeer et son fils Pierre Léon, son fils s'appelle Pierre, mais Pierre Léon, qui va devenir bénédictin et mourir à 30 ans, ils se font baptiser à la paroisse Saint-Médard à Paris, le 24 février 1911, et Blois est leur parrain. Bon. En même temps, Christine retrouve la foi de son enfance. Alors, elle et Pierre se donnent le sacrement de mariage. Je dis bien « se donnent le sacrement de mariage » car ce sont les laïcs qui se donnent le sacrement de mariage, qui est béni par un prêtre, officiellement par l'Église. Elle et Pierre, donc, se donnent le sacrement de mariage et après sa conversion, Vardermeer fait connaître Blois aux Pays-Bas, en Hollande, par un article paru dans le périodique Van Onsen Deed. Durant la Première Guerre mondiale, donc 1914-1918, Vardermeer gagne sa vie comme correspondant de guerre du journal catholique de Marsbourg. En novembre 1917, Léon Blois meurt. C'est tragique pour eux. Le mois suivant, c'est leur garçon de 3 ans qui s'appelle Jeannot François qui meurt. Alors le ménage Vardermeer regagne alors les Pays-Bas avec les 2 enfants qui leur restent, Pierre Léon et Anne-Marie, qui vont devenir bénédictins et bénédictines. C'est absolument, c'est une histoire extraordinaire. Je continue. Alors il demeure d'abord quelque temps à Osteroth, près de l'abbaye bénédictine, puis s'installe à Helmond, siège d'un hebdomadaire progressiste, dont Pierre devient rédacteur pour les Lettres et les Arts de 1921-1924. C'est un homme cultivé, n'est-ce pas? Dans le domaine des arts, il avait fait connaissance à Paris de Pablo Picasso, de Georges Rouault, d'Arthur Honegger et de Jean Cocteau. Ce qui lui permet d'apporter une espèce de note cosmopolite à ce curieux provincialisme malheureusement néerlandais, hollandais. Hein. Et en même temps, il éveille bien des jeunes catholiques à de nouveaux horizons. Puis il faut noter que Van der Meer ne devient jamais le chef de file d'un groupe déterminé, mais plutôt un guide, dont les articles suscitent bien des initiatives. Il mérite ainsi aux Pays-Bas une estime générale qui a duré jusqu'à sa mort en 1970. Oui, il est bien mort en 1970, très âgé, hein, 90 ans. En 1931, alors que Pierre Van der Meer de Walcheren célèbre ses 50 ans, sa fille Anne-Marie quitte la France et entre à l'abbaye Notre-Dame des Bénédictines d'Osteroth, car il y a un monastère d'hommes et un monastère de femmes l'un côté de l'autre, un peu comme à Solem. Deux ans plus tard, le 1er février 1933, c'est son fils Pierre Léon qui devient moine et prêtre à l'abbaye Saint-Paul d'Osteroth. Mais il meurt d'une grippe infectieuse à 30 ans à peine. Cette épreuve épouvantable. Ses deux fils sont morts, imaginez. Deuxième. Ça amène Pierre et Christine Van der Meer, leurs parents, à une décision extraordinaire que Pierre Van der Meer lui-même juge ensuite plus tard téméraire. Qu'est-ce que c'est? Ils veulent prendre la place de leur fils mort dans la vie monastique. Et pour cela, mais sacrifier leur bonheur conjugal. Vous savez, ça se fait des fois, des couples rentrent en religion comme ça, tous les deux. Alors, ils veulent entrer tous les deux dans des monastères bénédictins. Elle, Christine, elle entrerait à Sainte-Cécile de Solem, et lui, à Saint-Paul d'Osteroth, en Hollande. De plusieurs côtés, bien des amis le leur déconseillent nettement, et plusieurs auteurs, d'ailleurs, ont écrit que cette tentative de vie monastique qui a été interrompu après un an et demi. Ils ont été obligés de reprendre leur vie conjugale après un an et demi, parce que Christine dépérissait et que Pierre Van der Meer ne voulait pas que la vie de sa femme soit sacrifiée pour qu'il puisse, lui, mener la vie monastique à Osteroth. Alors, je vous ai dit que ça n'a pas marché, leur séparation spirituelle, comme ça, en entrant chacun dans un monastère. Vous savez, les parents de le marquis, la marquise de Vogüé, les parents de Adalbert de Vogüé, grande famille française, extrêmement riche, ont fait ça. En 1956, à Québec, ça s'est fait aussi. Un notaire et sa femme sont entrés, si je me souviens bien, chez les trappistes et trappistines. Il y a bien longtemps. Mais alors, l'idée qu'il s'était sorti du monastère après un an et demi, elle est généralement acceptée et reçue, mais elle est considérée par d'autres auteurs comme erronée. Et que on prétend que Pierre Van der Meer a même suggéré un peu que c'était par amour pour elle, qu'il ne pouvait pas s'en passer de sa femme. Et qu'il l'aurait écrit dans Dieu et les hommes... Parce que quand on écrit, on analyse les écrits manuscrits, ça nous révèle que Christine manquait trop à son mari Pierre. Celui-ci écrit « Et pourtant, au fond de moi-même, je ne suis pas le moine, mais l'homme qui aime Christine. » Alors, il y a une biographie qui a été publiée par Hellman, qui donne sur ce point la version qui s'approche le plus sûrement de la réalité, d'après certains. En tout cas, après un an et demi, donc, cette expérience a pris fin, et c'est pourtant celle qui a le plus impressionné le grand public. Tout le monde parlait de ça en Europe. Quand la Deuxième Guerre mondiale éclate en 1939, Van der Meer et sa femme retournent aux Pays-Bas, en novembre 1939, donc, et ils s'établissent à Bilthoven, un petit village de la province d'Utrecht, après avoir fait un quatrième pèlerinage à la Salette sous l'inspiration évidemment de Léon Blois, hein, qui aimait beaucoup la salette, à ce qu'on appelle Notre-Dame des menaces. Pourquoi Notre-Dame des menaces? C'est parce que selon la croyance de Léon Blois, eh bien Notre-Dame devait mettre à exécution les menaces de catastrophe faites au 19e siècle. C'est vis-à-vis des désastres de l'époque, Van der Meer est convaincu, ce n'est pas la première fois de vivre un tournant de l'histoire. Et du point de vue de la politique concrète, il est tout à fait dérouté, hein, à supposer qu'il ait jamais eu une conception arrêtée d'ailleurs. Il voit l'Église dépasser les péripéties de l'histoire, ou plutôt passer à travers elle, et il note à propos d'un discours d'Adolf Hitler en juin 1940, il écrit cela, c'est assez étonnant, mais ça arrivait chez les Hollandais, je note à propos d'un discours, je n'y trouve rien à redire, et je suis pleinement d'accord avec les idées et les principes qu'Hitler y expose. Étrange. Au sujet des Pays-Bas écrasés, il dit « Il est terrible de voir combien la mentalité du démo-libéralisme est ancrée dans les esprits, combien les hommes sont stupides et indolents. Je me sens tiré par le Front National, dit Hitler. Pour le reste, il faut attendre, mais jamais plus la pagaille d'antan, jamais. » C'est cité ce, dans sa biographie de Hellman. Alors, ce Front National, l'ancien Front Noir, était l'organisation fasciste et antisémite du catholique Arnold Major, d'inspiration plus ou moins hitlérienne, avec laquelle l'ancien anarchiste socialiste, qu'a été Van der Meer, était devenu d'accord. C'est étrange tout ça, mais il faut bien spécifier, je tiens à le dire, qu'il n'est jamais devenu membre de ce parti. Alors, c'est tout de même à son avantage. Toujours est-il qu'on peut penser que Van der Meer, figure de père spirituel des jeunes catholiques, aurait pu leur donner un autre exemple, il me semble. Mais il y manquait d'abord une vision puis une analyse politique sérieuse, comme tant d'autres à l'époque. Tant d'autres à l'époque. Il n'est pas seul, hein, il ne faut pas l'accuser, là. Il est pris dans une espèce de système de pensée. Et on n'était pas aussi averti qu'aujourd'hui. On ne connaissait pas Hitler, vraiment. Hein. Alors, c'est un moment décisif, donc. Et c'est dramatique, dans un sens, que Pierre Van der Meer se soit gravement trompé. Mais passons outre, parce que c'est pas ça qui importe, parce qu'il va changer complètement. La grâce de l'esprit, l'esprit, si on a dit « Veni Sancti Spiritus, viens esprit, mais il sera transformé complètement. Mais dans les années d'après-guerre, sa popularité ne cesse d'augmenter. En 1950, lors de son 70e anniversaire, la Flandre, où son influence est peut-être plus grande que dans son pays natal, la Hollande, lui rend hommage. Il y a des projets pour un voyage en Amérique du Sud qui se réalisent pas, car la santé de sa femme Christine faiblit toujours. Et elle meurt le lendemain Noël 1953, comme une sainte. Je vous renvoie donc à mon émission du 26 décembre 1997. C'est l'émission numéro 563, je la signale au cas où vous voudriez vous la procurer auprès de Marc Alexandre. Devenu, parce que les deux émissions se complètent, hein. Devenu seul, Van der Meer désire de nouveau devenir moine. Il se présente tout de suite le mois suivant, en janvier 1954. Elle est morte le 26 décembre, et tout de suite en janvier 54, il se présente à l'abbaye Saint-Paul d'Osterhout et il demande d'y être accueilli comme hôte permanent. Alors on lui propose d'entrer comme oblat régulier, de revêtir donc le costume bénédictin, avec un scapulaire à l'époque coupé droit, plutôt que rond, comme celui des novices. C'est une forme de vie monastique sans tout à fait les vœux complets. Pierre accepte. Il reçoit le 1er février, tout de suite, 1954, cet habit des oblats. Il a 73 ans. C'est donc moins de 2 mois après la mort de sa femme. Et bientôt, heureusement, on l'accepte au noviciat, comme moine régulier. Et après quelques études théologiques, il se prépare au sacerdoce. Mais là, il y a des objections qui sont élevées à l'abbaye de Solesmes, qui est l'abbaye mère, hein, qui dirige cette congrégation de moines bénédictins, car dans l'ordre bénédictin, il y a une vingtaine de congrégations comme ça, de groupes de monastères, qui suivent la règle de façon légèrement différente les uns des autres. Il y en a qui enseignent, il y en a qui ont des paroisses, des diocèses. Eux, les bénédictins de Solesmes, sont contemplatifs, cloîtrés. Mais l'évêque de Bréda, Monseigneur Beaton, intervient en sa faveur. Il est ordonné prêtre le 22 décembre 1956 à 76 ans, au monastère voisin où sa fille est moniale. La vieillesse n'a pas dompté le vieux lion, hein? Oh, pas du tout, il reste alerte. Puis il suit les évolutions du monde, de l'Église, puis de son ordre. Et quand des lettres du père Théard de Chardin lui tombent sous la main, il est ravi. Il salue le Concile Vatican II avec une fougue juvénile. Dans les discussions entre bénédictins, ben, il opte pour la formation d'une congrégation néerlandaise indépendante de Solheim pour avoir plus de liberté. Parce que Solheim était réputée comme étant très conservatrice. Il soutient constamment les idées de réforme, parfois les plus radicales, jusqu'à considérer comme dépassées certains aspects de la vie monastique dans sa forme existante. La décision de sa fille de se faire exclostrer en 1968, de quitter le monastère et d'habiter seule, comme ermite, est non seulement approuvée par son père, mais encore encouragée. Quand, après Vatican II, Jacques Maritain choisit de tenir des positions plus conservatrices et qu'il défend Humanae Vitae, l'encyclique de Paul VI, en 1968, eh bien, leur amitié cesse. Comme vous voyez, c'est un moine un peu spécial, hein? Et Van der Meer meurt donc le 16 décembre 1970 à 90 ans, et on dépose sa plume dans son cercueil. Mais Pierre Van der Meer de Walcheren a publié 28 livres, dont 5 avant son baptême en 1911. Parmi eux, des romans sont devenus illisibles, c'est passé sans intérêt. De plus, il a écrit quelques 800 articles de journal, surtout des critiques d'art. Si un adjectif peut caractériser le meilleur de cette œuvre, c'est celui d'autobiographie qui parle d'une façon très littéraire, très belle, magnifique, de ce qui lui arrive. Il est fascinant. C'est un narrateur qui utilise la première personne, plus ou moins implicitement présent dans les critiques et les essais d'ailleurs, mais ça prend directement, il prend directement la parole dans ce qu'on appelle ses journaux. Tu sais, quand on écrit un journal, quand on écrit son journal, comme on dit. C'est fantastique. Il y a le premier volume qu'on appelle Journal de converti, ça s'étend de 1907 à 1911. Le deuxième, qui s'appelle Dieu et les hommes, c'est de 1911 à 1935. Puis La Terre et le Royaume, de 1936 à 1962, puis ça se continue avec un autre volume. Alors, il écrit au début sous le pseudonyme de Matthias, qui va devenir son nom de religion d'ailleurs, mais qu'il ne portera jamais. Dans les romans aussi, il y a bien des traits qui se rapportent à sa vie tumultueuse, quand il était marxiste. Quand il était jeune, il avait une vie extrêmement tumultueuse. Mais avant de commencer la publication de ses journaux, là, Van der Meer fait l'essai d'une forme intermédiaire. Et puis, il relate son voyage en Italie, puis ses suites, puis la conversion. C'est paru en 1911. Il a été ébloui par Pise, Florence, Sienne, Venise, Assise et Rome. Ce qui l'a surtout impressionné, c'est la vie de Saint François d'Assise et son union avec la nature. À Rome, il assiste à une messe pontificale dont la liturgie le bouleverse. Ses notes de voyage en témoignent. Sa conversion puis son entrée dans l'Église catholique marquent le passage au genre autobiographique, au sens strict du mot. En 1913, paraît Journal d'un converti, où il retrace en détail le cheminement qui l'a amené à l'Église, c'est-à-dire l'art religieux de France et d'Italie, la mort de sa mère, l'expérience du culte liturgique catholique, puis enfin la rencontre de Léon Blois, sont les facteurs décisifs. Pierre Van der Meer, j'ai parlé de sa femme le 26 décembre l'an dernier, Christine, et aujourd'hui, bien, il est bien question de lui, cet homme extraordinaire, exceptionnel, qui chemine dans l'Église et va mourir vraiment comme un saint. Son journal, son premier journal de converti, manifeste combien sa femme a parcouru le même chemin spirituel que lui. La démarche était commune. Et ce livre a connu beaucoup de réimpressions, a été traduit, imaginé en français. À Paris en 1917, ça a été écrit d'abord en néerlandais, avec une préface passionnée de Léon Blois. Il y a des choses un peu pénibles de la part de Blois dans cette préface, mais ça fait rien, c'est tellement enthousiasmant qu'il faut passer outre, et puis c'est paru en allemand, en italien, en espagnol, en portugais, etc. Dans ce journal d'un converti, je lis ce qui suit. Si la conversion était la confession, là, le sacrement de réconciliation, si la confession était instituée par un homme, il aurait montré par là une profonde connaissance de l'âme humaine et accompli un sage et immense bienfait. Mais la confession est autre chose. Et bien plus, nous le savons et nous le sentons lorsque nous sommes à genoux près d'un prêtre. Lorsque nous mettons à nu les choses cachées de notre âme et entendons enfin les mots « Ego te absolvo a peccatis tuis, in nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. » Je te pardonne tous tes péchés, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. » Alors, écrit Pierre van der Meer dans son journal, « Alors le fardeau nous est enlevé, les troubles, ténèbres du péché sont chassés. Nous nous sentons légers, joyeux, guéris. Combien évidente est dans ce sacrement la puissance surnaturelle du prêtre, le remplaçant de Jésus-Christ. Vous parlez à Jésus, c'est lui qui vous pardonne. Vous étiez chargé des chaînes de vos péchés, Jésus les enlève et vous respirez librement. Vous êtes né de nouveau à la vie, vous êtes recréé. Oh, j'ai senti la réalité de ce changement intérieur. Oui, que Dieu ait donné aux hommes ce moyen de la grâce pour les secourir surnaturellement dans la lutte contre le mal. Quelle merveille! La nature humaine, si fragile, si défectueuse, ne peut pas de sa propre force suivre la route vers Dieu. Elle a besoin toujours du secours divin. Pour cela, Dieu a donné les 7 sacrements. Les 7 sacrements. Vous savez qu'on annonce en France de plus en plus un retour silencieux, en douceur, de quantité de gens qui ne pratiquant plus retournent justement au sacrement de la réconciliation et retrouvent à petits pas le Christ, la joie d'être catholique, la joie d'être chrétien, la joie d'être dans l'Église et de cheminer tous ensemble, ensemble. En s'aidant, bras dessus, les uns les autres. En 1929, Pierre van der Meer publie un livre sur Saint Bruno et les Chartreux intitulé « Le paradis blanc ». Ça s'enracine dans un séjour d'une semaine qu'il a fait à la Chartreuse de la Val-Sainte en Suisse. Ça a connu un très très grand succès. L'introduction est de Jacques Maritain. Certaines éditions magnifiques sont ornées des dessins à la plume d'Otto van Rees. L'ouvrage, une de ses œuvres qui se lisent le mieux, présente cependant l'isolement pour l'amour de Dieu d'une manière un peu trop abrupte et sans nuance. Il faut nuancer ça. Dangereux de trop s'isoler, hein? Pas facile, ça prend une vocation très spéciale. L'ermite, les Chartreux. À partir de 1940, van der Meer fait paraître d'autres volumes de son journal. On y voit son évolution spirituelle de 1911 à 1954. Hein, Dieu, comme je vous les renomme, Dieu et les hommes, 1911-1935, c'est 700 pages. Ça. Et La Terre et le Royaume, 1936 à 1962, donc 360 pages. Là. Le style est constant dans toute la série. J'aime beaucoup sa façon d'écrire. Ce sont des réflexions pleines d'émotions et bien personnelles sur les événements de sa vie, puis celle de Christine. On voit là des vues intéressantes sur les milieux non conformistes que van der Meer fréquente. Il peint ainsi l'entourage de Léon Blois, dont peu à peu il se distancie. Il est violent, Léon Blois. Hein. Il parle des bénédictins d'Osterhout, avant, pendant et après sa première entrée en cette abbaye. Il est resté un an et demi une première fois. Les péripéties des jeunes catholiques dans les années 20, des jeunes catholiques de Hollande, ses expériences dans le monde de la presse pendant les deux périodes où il a été directeur des éditions Desclés de Brouwer, oui, ben oui. Dans son journal de 54 à 64, de 1954 à 64, là, il montre les développements de son existence dans le milieu monastique d'Osterhout, comme moine. Pendant la seconde entrée, quand il est resté pour toujours, sans que diminue son intérêt pour les nouveaux courants dans l'art, la société, l'Église et son ordre. Il va mourir moine, prêtre. Dans son ouvrage « Rencontres », paru en 1961, encore autobiographique, ça, il décrit les quatre rencontres cruciales de son existence. C'est un très beau livre consacré à Léon Blois pendant des pages et des pages. Léon Blois qui lui enseigne la foi catholique vivante, vibrante et passionnante. Jacques et Raï Chamaritain aussi, comme lui, des convertis du cercle de Léon Blois. Et la dernière partie du livre est consacrée surtout à sa femme Christine, c'est ce qui m'avait inspiré pour l'émission du 26 décembre de l'an dernier. Il dit « Car par elle, Christine, j'ai appris à aimer ». Ce livre est, en Hollande, aux Pays-Bas, le plus apprécié. C'est le plus réédité. Le talent de Van der Meer apparaît dans le genre autobiographique. Il y a un don pour ça. Ni dans sa jeunesse, ni dans sa vieillesse. Il n'est parvenu à écrire un roman acceptable. Il n'était pas non plus fait pour la théologie, comme le montrent ses notes sur le renouveau de l'Église et du christianisme. Des idées parfois un peu surprenantes. Il a été publié un an avant sa mort sous le titre de « Fait l'univers nouveau », paru en 1969. Il est mort en 70, comme vous savez. L'influence de Pierre Van der Meer a été très large et durable, et en particulier aux Pays-Bas et en Belgique, mais aussi, ah oui, en Europe, dans le méridional, dans l'Amérique latine, et ici aussi, d'ailleurs au Québec, il était très lu. Hein. Je me souviens, on parlait de ça dans mon milieu. L'histoire de sa conversion, surtout, c'était tellement passionnant. Il y a un romantisme là-dedans qui frappe l'imagination. C'était très lu, mais également ses journaux personnels, avec l'étonnant épisode de ce couple qui se sépare pour entrer dans la vie monastique, puis... Il cherche en vain le bonheur, et puis le style personnel et emporté plaisait aussi. On dira dans quelle mesure on peut retrouver dans ses livres les échos des combats culturels et spirituels de l'époque. De toute façon, les textes autobiographiques de Van der Meer sont restés très lus jusqu'à sa mort. On peut dire que l'intérêt est disparu brusquement, mais c'est dommage. Mais ceux qui les lisent aujourd'hui peuvent constater combien ils sont encore, malgré tout, très passionnants. C'est incontestable que cette œuvre autobiographique a sa signification éminente. Et qu'aux Pays-Bas, c'était très important dans le développement de la culture catholique. L'œuvre critique a ouvert de nouvelles voies dans les années 20, parfois peut-être un peu dommageable. Pauvre Église de Hollande qui s'est aventurée dans des dédales à certains moments. Aucune tribune n'existait alors où la génération nouvelle pouvait s'exprimer. Van der Meer, avec sa culture cosmopolite, surtout française, a personnifié l'esprit de renouveau catholique. Il apportait les idées de Léon Blois, son catholicisme absolu, une espèce de catholicisme de saint qui déborde parfois. Et puis, une aversion de la démocratie, comme je l'ai dit tout à l'heure, et du suffrage universel qu'il appelait la folie suprême de l'humanité. Des opinions qu'il a partagées jusqu'à ses derniers jours, le pauvre, ouais. Il ne faut pas oublier de mentionner ici l'influence qu'ont pu exercer ses conférences innombrables qu'il a données aux Pays-Bas et en Belgique, puis les heures innombrables aussi qu'il a passées au parloir de son abbaye d'Osterhout en Hollande, chez les bénédictins, avec des visiteurs venus des quatre coins du monde. Bien que ses entretiens l'épuisaient, Van der Meer croyait qu'il était de son devoir pastoral de recevoir ceux qui le demandaient au parloir. Pour un moine bénédictin cloîtré, ça prend énormément de courage pour quitter ainsi le silence. C'est très difficile de rendre pleinement la personnalité complexe de Van der Meer. Les deux grands axes de sa vie semblent bien être, dans ses premiers écrits et ses premiers engagements, une profonde commisération pour les réprouvés de cette terre, les pauvres et les malheureux. Une recherche passionnée continue de Dieu aussi. Dieu, pour lui, est identique à l'amour. Et cela n'a cessé de dominer son œuvre entière, qui paraît imprégnée d'une vision spirituelle, peut-être, selon certains auteurs, plus franciscaine que bénédictine. Mais je ne suis pas nécessairement d'accord, car je crois que les bénédictins sont passionnés de la présence de Dieu, notre Père, et toute leur vie est centrée là-dessus. En union avec le Christ, dans l'unité de l'Esprit-Saint. Son style exubérant à Pierre Van der Meer, l'intensité puis l'exaltation de sa voix aussi, ne sont pas toujours favorables à une clarté dans sa pensée. Dans son emportement, il néglige parfois les nuances. ce qui n'est pas seulement un héritage de Blois que l'on considérait souvent, que l'on traitait d'insupportable, mais aussi un trait de son caractère. À un certain moment de sa vie, on le voit abandonner l'étude sérieuse, puis il réfléchit là, pour se lancer dans une espèce d'exaltation, même le paroxysme. Il y avait des mots qu'il préférait. Il aimait ça, dire médiocre, bourgeois. Ce sont des invectives à peu près les plus indulgentes qu'il avait à la bouche. Comme Blois. Est-ce que ça implique qu'il se sentait lui-même dépassant la moyenne puis la bourgeoisie? Non, non. Peut-être à certains égards, mais ses opinions absolues et souvent romantiques sur l'art, la foi, la vie monastique semblent aujourd'hui un peu spéciales. Bien des choses sont survenues depuis ce temps-là. On a vu de profondes révolutions sociales s'opérer dans le monde. Le ressourcement théologique est survenu, le réveil critique, tant à l'intérieur qu'au dehors de l'Église. Tout ceci polarise l'attention aujourd'hui. Mais ça n'empêche pas que Pierre van der Meer a été, par sa personnalité charismatique, puis sa parole enthousiasmante, un inspirateur pour beaucoup, aux Pays-Bas et de par le monde, et même ici au Québec, où, je vous le répète, on le lisait avec passion. Nous devrions le relire encore et encore. Des éveillés de cette sorte sont si rares. Des gens aussi passionnants, c'est si rare. Ça stimule, me semble, ça réveille. Moi, ça me stimule, ça me réveille. Ça me fait aimer Dieu avec enthousiasme et ça me fait aimer l'Église avec passion. Alors, je vous rappelle que les ouvrages suivants sont parus en français. Journal d'un converti. Moi, j'ai l'édition, la cinquième édition, 1962. Et puis, Le paradis blanc, puis Dieu et les mois, et les hommes, Dieu et les hommes, c'est un gros bouquin, ça. Moi, j'ai la troisième édition de 64. Rencontre, ah, c'est si beau, ça, c'est la vie de Léon Blois, de Christine, sa femme, etc. C'est des beaux textes. Et puis, La terre et le royaume, c'est toujours son journal. La vérité vous rendra libre, c'est la fin, ça. Et puis, on peut lire aussi dans Reich Samaritain. Vous connaissez les grandes amitiés de Reich Samaritain? Avez-vous déjà lu ça? Ben, il y a un chapitre d'une dizaine de pages, la page 262-272, moi, dans l'édition que j'ai, où il est question de quelques conquêtes du mendiant ingrat. Qui est le mendiant ingrat? Hein? Vous le savez, c'est Léon Blois. Bon, quelques conquêtes du mendiant ingrat, Pierre et Christine. Et c'est bien eux dont il est question dans ce texte de Reich Samaritain. Pierre van der Meer de Valkeren est mort moine, 90 ans, comme un saint. Il a raconté la mort de sa femme. C'est un des plus beaux textes. On le retrouve à la fin de Dieu et les hommes. Il écrit dans l'année profonde de 1954. J'ai éprouvé que toute privation imposée par Dieu enrichit et augmente le domaine spirituel de la grâce et de l'amour. Surtout la mort de l'être le plus cher, qui donnait au monde sa clarté et le rendait habitable au milieu de la multitude humaine, même si l'on est ivre d'un chagrin sans limite, comporte une indicible augmentation du plus beau bonheur. La présence de Dieu est un don toujours nouveau. La mort sépare les corps en les déchirant, et cela fait horriblement souffrir. Les âmes deviennent plus profondément, plus intensément unies et rassemblées dans la réalité renouvelée du monde. Ce sont de grands moments, ceux où une âme humaine, l'âme qui est votre propre vie, devient peu à peu, puis encore très soudainement, est ravi dans le silence de Dieu. Ce sont des moments hors du temps, des cycles que le temps ne mesure plus. Je ne l'ai pas quitté depuis la nuit de Noël, après la messe de minuit, jusqu'à l'aube du second jour de Noël, 1953. Quand elle, Christine, retourna chez elle, énigmatiquement calme, inimaginablement belle dans la paix. Mes pensées dans ces heures d'égarement battaient monde, allant de la peine extrême où l'on saigne à mort, pendant toute vie vivante, jusqu'à l'éblouissement dans l'amour de Dieu, à travers tant et tant de souvenirs qui s'allumaient de toutes parts, et allaient soudain à la conscience lumineuse de l'intense proximité de Dieu. Oh, elle était étendue devant moi, sur sa couche, sans bouger, les yeux clos, les mains immobiles sur les draps. Elle a reçu l'extrême onction, le midi de Noël. Le père Hans et le père Franz, frères de notre père Pieterke, c'est son fils à Pieterke, qui était moine, la lui ont administrée. Le matin même, elle avait reçu aussi le corps de notre Seigneur Jésus. Elle était déjà presque immobile. Seul rayonnait son sourire généreux qui disait tout et répondait à toutes les questions. Ensuite commença la nuit suprême. Je considère ce grand événement de notre existence comme un nouveau miracle de l'amour, l'un de ces miracles toujours attendus et toujours survenus. Perdu dans un vide vertigineux, je récitais debout à haute voix le Magnificat. Et par ces paroles, le vide devint plénitude de la présence de Dieu. Mon cœur était comme incendié. Cette même nuit, pendant que je récitais la prière des agonisants, environné par la présence de l'Église et Dieu étant tout proche, peut-être rêvais-je, mais non, c'était une pensée, une recherche, un coup de sonde vers la compréhension, afin d'atteindre les racines les plus profondes de mon être. Dans cette heure avancée de la nuit, je pensais ceci. La femme est un vestige du paradis, l'unique fragment du paradis perdu que l'homme ait pu emporter hors du jardin de Dieu dans le désert du monde. L'homme avait été le prêtre de la femme et devait lui donner la sainteté. Mais il se laissa séduire par elle et dans sa faiblesse faillit à son état de prêtre et tomba plus bas qu'elle. Le désir de la femme vient du même amour, il n'y a qu'un seul amour, par lequel elle aime l'homme et s'y attache. Mais à cause de la détresse profonde de la nostalgie inguérissable du paradis, elle exige la perfection de ce seul amour. La femme désire le Rédempteur, le Christ, le prêtre dont la puissance la réintroduira, elle, avec l'infinie multitude qui l'habite dans le nouveau paradis. Dans la femme survit plus violemment l'indestructible souvenir du paradis perdu, qui est son lieu de naissance à elle, car elle, et non point l'homme, a été éveillée à la vie par le Créateur dans le paradis. Par elle, il fut perdu et à cause d'elle, son prêtre faillit. Depuis l'appel de la femme vers le prêtre monte des profondeurs. Chaque femme, chaque mère, désire un fils qui soit prêtre. Cet appel confus est infiniment lointain. C'est un écho indistinct de ce que la Sainte Vierge Marie entendit en elle dans un infini désir du Messie, le pacificateur, le sauveur, l'unique grand prêtre, l'agneau d'amour. À 5h20, le matin de la fête du premier martyr Étienne, son corps s'est immobilisé dans la mort. Je vois l'immobilité, mais je ne puis concevoir la mort. Me voilà soudain seul en face de Dieu. Seul avec Dieu. Le Dieu des vivants nous a visités. Il a éteint la lumière de la vie et fermer tous les horizons. Christine n'est plus là. Je ne puis plus la chercher. Je ne la trouverai plus jamais sur la magnifique terre de Dieu, où par notre amour, nous avons au centre de la vie rencontré l'amour. Elle a pris son essor dans la paix de Dieu. Je me trouve devant un mur. Derrière ce mur commence la réalité effective. En moi, quelqu'un dit, c'est le mur de Dieu. J'y appuie les mains, et comblé par la présence de l'indicible, par la toute-puissance et la tendresse, je récite encore le Magnificat. Me voilà transporté dans une autre réalité. Je ne suis plus tout à fait présent. Déchiré en deux parts. Oui, déchiré en deux parts. Le Dieu des vivants est le Dieu terrifiant. Il est le cruel amour et l'ineffable tendresse. La messe des funérailles, célébrée par le père abbé d'Austerlitz et les deux moines bénédictins, dans l'église Saint-Martin de Prinsenhag, et l'ensevelissement chanté et prié d'un être cher dans la terre de paix du cimetière contigu, ce jardin de l'attente, furent à la fois, en ce jour d'hiver, qui brilla pendant quelques heures d'une lumière printanière, une fête merveilleuse où la joie et la douleur se confondirent. Vais rediriger mes pas. Toujours Christine m'a précédé. À présent, moins que jamais, je ne puis laisser de la suivre. Elle est allée à Dieu auprès de ses deux fils. Moi, je reste seul dans la tempête de l'amour. Et je pense à Anne-Marie, notre soror Christine. Il faut que j'aille à elle. Pas d'autre possibilité pour moi que de monter plus avant dans la profondeur près de Dieu et demander de pouvoir m'élever dans l'amour, simplement, totalement, me donner à Dieu, afin de me donner plus encore aux hommes. La voix de Christine m'y appelle aussi. Tout autre changement dans ma vie, toute autre diversion signifierait une diminution de notre vie étrangement protégée. Ce serait un arrêt, puis un recul, un abaissement vers la médiocrité quotidienne et désespérante. Bon, cela est absolument impossible. Je ne puis. Je ne puis. Tout mon être en frémit. Il n'y a pour moi qu'une seule issue. Aller à Dieu. Et j'y suis allé. Il entre au monastère. À présent, j'attends Dieu. Et je prie. Père, tout est bien. Oui, tout est bien. Car tout est amour. Voilà ce qui m'est advenu par l'amour. Par l'amour.